Vous écoutez
RMC.
Lundi 22 juin.
L'info sur RMC.
3, Céline Kallmann est là pour les dernières infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Cinéma, nous voilà. Une reprise encadrée dès minuit dans certaines salles. Après 3 mois de fermeture, les spectateurs peuvent redécouvrir le plaisir du grand écran. Et puis, la rentrée, en principe pour tous les élèves jusqu'au collège aujourd'hui, avec des règles sanitaires allégées. Les policiers pris pour cible sur l'esplanade des Invalides à Paris. Cette nuit, fête de la musique gâchée. Reportage dans ce journal. Et puis, une nouvelle épreuve pour les proches de la petite Estelle Mouzin. Des fouilles vont être menées dans les Ardennes où Michel Fourniret a vécu. Les enquêteurs vont tenter de retrouver le corps de la fillette. Bienvenue à tous sur RMC. Comme pour la réouverture des coiffeurs, des restaurants, ce fut beaucoup d'émotions hier soir pour la première séance. Le rideau à minuit s'est levé dans plusieurs cinémas. Une reprise très attendue après 3 mois de fermeture due au Covid-19. Margot Bédé a pu assister pour RMC à la relance du cinéma L'Arvor à Rennes.
Après une demi-heure d'attente, plus que quelques mètres séparent Cassandre et ses amis de leur salle de cinéma, les jeunes femmes ne cachent pas leur excitation.
Réouverture des cinémas à minuit, c'est trop cool. J'allais au cinéma 2 fois par semaine, quoi. Ça a été vraiment long.
Les repères sont tout de même bousculés. Dans la salle, un fauteuil sépare chaque groupe de spectateurs. Malgré la distance, Bénédicte renoue avec les lieux.
La lumière qui va s'éteindre, le son qui va être fort, partager quelque chose avec d'autres gens, même si on ne les connaît pas.
2 heures plus tard, Adélaïde et Cassandre ressentent ravis.
Vu que c'était le retour, un petit peu, il y avait un côté assez familial, trop chouette.
Ouais.
Les gens rigolaient vraiment, franchement, c'était trop bien, j'ai trop aimé.
Et puis voilà, on avait un peu l'impression de faire une bonne action.
Oui, une bonne action indispensable pour le cinéma Arvor et son directeur Eric Gouzanet.
Notre équilibre est à 115 000, 120 000 entrées, ce qui était le cas l'an dernier. Donc là, on a commencé fort l'année, on était à 35 000 lors de l'arrêt le 14 mars. Donc 3 mois d'interruption, on est toujours à 35 000, hein. Le déficit va être assez important.
Il n'y a donc pas de temps à perdre. La prochaine séance ici a lieu cet après-midi à 14h.
Nous sommes le lundi 22 juin, il y a comme un air de rentrée des classes à 2 semaines des grandes vacances. Tous les écoliers et collégiens sont censés reprendre les cours grâce à un allègement du protocole sanitaire. Présence en classe obligatoire. Enfin, répondent les élèves qu'Alfred Orange a rencontrés pour RMC.
Privé d'école depuis mi-mars, Ulysse, élève en 4e, l'avoue.
J'aurais jamais cru qu'un jour l'école me manquerait. Donc en fait, là, je suis content de retourner à l'école. Ouais.
3 mois qu'il est enfermé chez lui, cette rentrée, c'est d'abord retrouver un cadre de vie.
On pourra plus se voir avec les potes, on reprendra notre rythme de vie.
À distance, difficile d'échanger correctement avec ses profs, Ulysse viendra donc en cours avec ses questions, notamment en maths.
Qui nous explique tout ce qu'on a fait pendant le confinement. Les maths, c'est quand même une matière où il faut avoir un visuel, une leçon, et on n'a rien.
Voir son fils reprendre le chemin du collège.
Et donc tu as musique.
Une libération pour Sophie, la maman qui a cumulé les fonctions.
Gérer l'école à la maison, c'est-à-dire prendre la casquette de maître ou maîtresse, dame de service, cantinière. Et on sort effectivement de ce tunnel soulagé.
Clore l'année scolaire est primordiale pour Denis Bertrand, directeur de l'école maternelle Darius Milhaud à Paris.
Les enfants ont besoin de se dire au revoir, de retrouver les locaux de l'école, leur classe, leur maîtresse, leur maître. Pour eux, c'est important de finir là-dessus avec les copains, les copines.
Les écoles fermeront officiellement le 4 juillet prochain.
C'est l'une des infos de la matinée. 10 enfants de djihadistes français qui étaient retenus dans des camps en Syrie ont été rapatriés en France cette nuit. Benjamin Smadja, c'est le ministère français des Affaires étrangères qui l'annonce ce matin.
Oui, la France a procédé au retour de ces 10 jeunes enfants mineurs. Il s'agit d'orphelins ou de cas humanitaires. Ils étaient retenus dans des camps du nord-est de la Syrie. On ne sait pas comment ils ont quitté la Syrie. On ne connaît pas leur lieu d'arrivée en France. Mais le Quai d'Orsay indique que ces enfants ont été remis aux autorités judiciaires françaises, qu'ils font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux. La France remercie l'administration kurde pour sa coopération dans ce nouveau rapatriement. En comptant ces 10 enfants, la France a donc ramené 28 enfants de Syrie depuis l'effondrement de l'État islamique en mars 2019. Selon le collectif Famille Unie, qui regroupe des proches de ces enfants, environ 300 enfants de djihadistes français sont retenus dans des camps du nord-est de la Syrie.
Benjamin Smadja, autre info de la nuit, ce sont les forces de l'ordre prises pour cible sur l'esplanade des Invalides à Paris. Des milliers de personnes s'y étaient rassemblées pour la fête de la musique, un rassemblement qui a donc dégénéré. Mahou Bekar-Granier.
Selon les témoins, c'est une simple bagarre qui aurait conduit les policiers à intervenir sur l'esplanade des Invalides, mais ce jeune homme reconnaît que la situation a rapidement dégénéré avec les forces de l'ordre.
On est venu passer une petite soirée tranquille, normal comme on fait tous les jours. On s'est ajouté des feux d'artifice pour fêter la fête. Ils sont venus, commencé à nous encercler et tout ça. Et nous, on n'aimait pas ça, du coup on a commencé à les caillasser partout. Bouteilles, tout ce qu'il y avait par la main, on caillassait.
Mais pour David, venu lui aussi profiter de cette atmosphère estivale, ce sont uniquement certains jeunes qui ont cherché à en découdre avec les policiers.
Et à chaque fois que des véhicules passaient, ils étaient pris pour cible. Et beaucoup de policiers qui se sont fait tirer dessus à coups de feu d'artifice.
Pendant près de 2 heures, Kenzo et ses amis se sont eux aussi retrouvés coincés au milieu des jets de projectiles.
Pour moi, ça allait dans la centaine de projectiles, bouteilles jetées sur les voitures qui passaient. Et encore, j'ai pas tout vu. Hein. Bouteilles en verre, bouteilles de vin, flash. Tout ce qui est jetable en fait et qui peut casser et faire mal. Les forces de l'ordre, oui, ils ont rétorqué déjà on apprend des renforts parce que c'était un peu débordé quoi.
Les policiers sont finalement parvenus à ramener le calme vers 4h du matin.
Des règles sanitaires encore très strictes en Guyane, territoire voisin du Brésil, où le bilan vient de dépasser les 50 000 morts. Hier soir, Matignon a prévenu, il faudra reconfiner si la situation s'aggrave. Dès aujourd'hui, 17 soignants supplémentaires issus de la réserve sanitaire sont attendus sur place. Étienne, un habitant de Saint-Laurent-du-Maroni, est inquiet et trouve que les décisions prises ne sont pas les bonnes.
Notre famille nous manque parce que je suis avec ma conjointe et oui, ça fait un an qu'on n'a pas vu nos proches, donc bien sûr, on veut rentrer. Il y a un couvre-feu tous les soirs à 18h et après le week-end du samedi 15h au lundi matin 5h, pareil, couvre-feu. En gros, tu as le droit d'aller te contaminer et contaminer les autres la semaine pour bosser et le week-end pour ton petit plaisir et tes distractions, tu n'as plus le droit, quoi. On a fait marche arrière, on revient sur le truc, donc on reconfine tout doucement. Pour peut-être, effectivement, reconfiner pour de bon. Ça dérange tout le monde, mais s'il faut le faire, on le fera, bien sûr. Moins il y a de cas, mieux c'est. Et là, le problème, c'est que c'est exponentiel.
Et ce matin, l'Organisation mondiale de la santé fait état d'une progression record du nombre de cas d'infection, principalement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. RMC, 8h09, 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes, en Seine-et-Marne. Des fouilles vont être menées à partir d'aujourd'hui. Cela va se passer dans les Ardennes, dans deux anciennes maisons où a vécu Michel Fourniret. Le tueur en série est mis en examen dans cette affaire où le corps de la fillette n'a jamais été retrouvé. Gladys Lafitte.
Les enquêteurs espèrent trouver des ossements, confie une source proche du dossier. Une vingtaine de gendarmes est mobilisée, des spécialistes en identification criminelle, des plongeurs, un archéologue et une dizaine de militaires de l'armée de terre rompus aux recherches d'armes cachées sur les terrains de guerre. Objectif creusé à plusieurs mètres de profondeur avec le plus grand soin. C'est d'abord la maison de la sœur décédée de Michel Fourniret qui va être fouillée à Ville-sur-Lume dans les Ardennes. Les enquêteurs sont convaincus qu'il s'y trouvait dans les jours suivant la disparition. Deuxième lieu, le château où il a vécu avec son ex-femme Monique Olivier à une dizaine de kilomètres. Deux de ses victimes y avaient été enterrées à 3 mètres de profondeur. En mars, Michel Fourniret avait reconnu avoir pris la vie de la fillette sans donner plus de détails quant à l'endroit où se trouve son corps, invoquant sa mémoire défaillante, indiquant tout de même qu'il n'était pas improbable qu'il ait séquestré Estelle Mouzin à Ville-sur-Lume.
À retenir également dans l'actualité de ce lundi à 16h à Stain en Seine-Saint-Denis cet après-midi, le syndicat de police Alliance 93 organise un rassemblement devant une fresque qui fait polémique. Les visages d'Adama Traoré et George Floyd avec un écrit qui dénonce le racisme et les violences policières. C'est précisément cette inscription que dénoncent les fonctionnaires. Ils demandent qu'elle soit retirée. Un rapport de 600 pages désormais entre les mains de la ministre de la Transition écologique et solidaire Elisabeth Borne. Les 150 citoyens de la Convention climat ont notamment voté pour la création d'un crime d'écocide par référendum qui sanctionnerait les grandes atteintes à l'environnement. Le chef de l'État s'exprimera sur ces propositions dans une semaine. Jérémy Trottin.
Emmanuel Macron a promis de reprendre ses mesures sans filtre. C'est à lui maintenant de les mettre en œuvre et non aux Français de s'exprimer une deuxième fois sur le sujet, confie un des modérateurs de la convention. Les 110 km/h sur autoroute, l'interdiction de la vente des véhicules très polluants dès 2025, la mise en place d'une taxe sur l'alimentation ultra transformée, autant de propositions parfois radicales renvoyées donc vers l'exécutif par les 150 Français tirés au sort. Ils ont fait de la politique, estime un parlementaire LREM, qui aurait préféré que certaines mesures concrètes passent par la voie du référendum, car plus on approche de la fin du quinquennat, plus les oppositions se lèvent. Ce sera très difficile de faire voter les mesures les plus ambitieuses, précise ce même député. La balle est désormais dans le camp d'Emmanuel Macron qui s'exprimera sur ses propositions lundi prochain.
Elisabeth Borne
va s'exprimer déjà, hein, tout à l'heure, 8h35, 9h sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Céline.